Alors, c'est vrai qu'on a parlé jusque-là de l'heure précise, et vous avez remarqué, ceux qui, en général, sont les plus intéressés sur une précision absolue de l'heure, eh bien, figurez-vous que c'est les astronomes. Bah, c'est une précision, je veux dire, qui va de pair avec leur métier, puisqu'au tout début, on notait l'heure de lever et l'heure de coucher, du soleil, de la lune, des étoiles, et qu'on essayait plus ou moins de les prévoir. On essayait aussi de prévoir les éclipses lunaires, les éclipses solaires. D'ailleurs, ça aurait sauvé Christophe Colomb, qui a prédit aux Indiens « Ce soir, la lune va se plonger dans un bain de sang. » À peu près vers 3h25. Et figurez-vous donc que les astronomes avaient un tel besoin de précision horaire que c'est eux qui avaient, au fur et à mesure, de par la créativité, c'est eux qui commandaient et qui ont fait construire les horloges mécaniques les plus précises. Et figurez-vous que le service de l'horloge téléphonique a été fondé dans les années 20. C'était ni plus ni moins que le secrétariat de l'Observatoire de Paris. Agacé d'avoir à payer un thésard uniquement pour répondre au téléphone et indiquer qu'il est exactement 11h55 et 44 secondes, punaise, je vais être à la bourre, le directeur de l'observatoire Ernest Esclangon fit construire un automate directement relié au réseau téléphonique. Alors c'était une belle prouesse technologique qui indiquait l'heure avec un système qui reconstituait des phrases de mots enregistrés. Bon, alors du sampling quand même, cela peut vous paraître simple, mais en 1933, le système jonglait entre plusieurs films argentiques où était enregistrée la voix de Radio Low, le speaker de la plus importante radio privée de l'époque, et qui a enregistré en 3 séances, pratiquement, 24 heures non-stop à dire « Il est 11h56 minutes et 24 secondes ». Heureusement, un mouvement d'horlogerie, même fait par un orfèvre, ben figurez-vous que cela reste un mouvement mécanique qui peut être faussé par les changements de température, les légers tremblements de terre et même les grains de sable de la mécanique. À la fin du 19e siècle, les frères Jacques et Pierre Curie, oui, le même qui se mariera plus tard avec Marie Curie, découvrent que le cristal de quartz produit un courant électrique quand il est contraint, quand il se prend un petit choc. C'est l'effet piézoélectrique qu'on utilise par exemple dans tout ce qui est balance de salle de bain. Or, combiné avec l'interaction inverse, on peut obtenir une fréquence très précise. Cette fréquence à 32 768 Hz est celle donc d'un oscillateur à quartz. On peut facilement la démultiplier pour revenir à la seconde, ou on peut aussi la multiplier et obtenir des précisions plus fines. En général, les cartes mères de montage électronique, d'ordinateurs et de smartphones sont pilotées par des petits oscillateurs à quartz dont on obtient un signal en gigahertz. Mais un oscillateur à quartz peut certes être précis, mais il est très difficile de descendre en dessous de la variation de seconde sur une année. Il continue à être influencé par les écarts de température. Ces écarts de température ont par contre beaucoup moins d'influence au cœur d'un atome. Or, les changements de niveau énergétique d'un atome, c'est pas la désintégration du césium, émettent un rayonnement sur des fréquences extrêmement précises. C'est vraiment des raies. Quand vous voyez des lampes au fluor ou quand vous voyez des lampes au sodium avec cette couleur orange, c'est vraiment une raie extrêmement fine. Et cette raie ne varie pas en fonction de la température. Ainsi, les atomes de césium peuvent émettre dans certaines conditions d'excitation une fréquence de 9 192 631 770 Hz. Cette valeur est tellement stable qu'elle est actuellement la définition officielle de la seconde. Une horloge atomique au césium a une précision d'environ 1 seconde sur 10 millions d'années au minimum. Je parle de celle bas de gamme, sur 10 millions d'années, celle que vous achetez au Lidl. Non, maintenant on en est à pratiquement 250 millions d'années de stabilité. Et dans les années 90, et ça je l'ai vu de mes propres yeux, l'observatoire du Pic du Midi utilisait un signal horaire calculé à partir de plusieurs horloges atomiques au sein de l'observatoire de Paris, là où il y a le fameux centre de calcul de la rotation de la Terre. Et ce signal était transmis et diffusé en sous-porteuse de France Inter Grandes Ondes. Et en astronomie, la précision est très importante. Alors attention, notez bien, la Terre tourne à 360 degrés en 24 heures, donc en une seconde, la Terre tourne de 15 secondes d'arc, donc 3600e de ce 2 degrés. Or, quand on veut observer une étoile ou une galaxie extrêmement lointaine, on doit garder la pose avec un télescope de 2 mètres de diamètre plus d'une heure, donc être très exactement synchronisé avec la rotation de la Terre et donc avoir une précision au 10 millième de seconde, sur plusieurs heures, Vous voyez l'engin que ça fait 2 mètres de diamètre, et je ne vous parle pas de la longueur du fût. Et pour avoir une très lointaine lueur qui n'allume qu'un seul pixel.